RCF.
C'est sur cette jolie place, devant l'église monastère de San Pedro Claver, que j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en Colombie, dans cette magnifique ville de Cartagena, Cartagène des Indes, la première ville fondée par les Espagnols sur le continent sud-américain au XVIe siècle. C'est dans cette ville fortifiée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que se trouve le musée sanctuaire de San Pedro Claver, ce jésuite du XVIIe siècle, patron de la Colombie, et vous allez le voir, patron des droits de l'homme, dans un pays où ces droits sont malheureusement encore trop souvent violés. Le père Gutiérrez, l'un des jésuites de ce sanctuaire, nous y accueille.
Ici, cet endroit est l'endroit où Pierre Claver est décédé. C'était une sorte d'infirmerie et il était soigné par des personnes de la communauté, mais par des esclavisés aussi, des personnes qui étaient dans son entourage. Ici, il a passé 3-4 ans, les dernières années de sa vie, et l'endroit est conservé comme il était. D'après tous les vestiges, tous les données historiques, c'était cet endroit-ci.
Il est arrivé en quelle année en Colombie ?
Il est arrivé au début du XVIIe siècle. Il a fait d'abord des études de théologie à Bogota et à Tunja, d'autres villes de Colombie, mais par après, les derniers 40 ans, il les a passés ici, à Cartagena, où il a été ordonné et il a commencé son travail à peu près 40 ans.
Il a passé 40 ans à s'occuper des esclaves ici.
Si, avec les esclaves.
C'était son activité principale.
Et c'était son activité principale ici à Cartagena et il sortait aussi pour les visiter dans les peuplades des alentours. Il allait accompagner de ses compagnons de travail pour les visiter, pour voir comment c'était la communauté. Et tout le travail, à lui, c'était pour les esclaviser.
Et ça, c'était très nouveau à son époque ?
Bien sûr. Et c'était le commencement du travail de l'Église avec les communautés africaines qui étaient obligées de venir ici. D'autres s'étaient occupés d'abord des Indiens. Par exemple, Bartolomé de las Casas. Pero Pierre Claver a été pionnier con Alonso de Sandoval, autre jésuite, qui n'a parlé pas autant, mais il a écrit davantage. Pierre Claver a été plus actif. Et ces deux personnes se trouvent à l'origine du travail avec les populations noires dans notre pays et peut-être dans tous les continents latino-américains.
Père Gutiérrez, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les Colombiens, San Pedro Claver?
San Pedro Claver, pour nous, et nous essayons de le lancer davantage, c'est le patron des droits humains. Certainement, et maintenant, nous ici, nous prenons la relève, pour ainsi dire, de cette option de l'Église pour la défense des droits humains. Ça, pour nous, aujourd'hui, est clair que notre objectif, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui regarde les droits de la personne humaine.
San Pedro Claver s'est occupé à son époque d'aider les esclaves. Vous, jésuites d'aujourd'hui, quelles sont vos priorités?
Eh bien, les jésuites, depuis un certain nombre d'années, ont mis le service de la foi et la promotion de la justice. Depuis quelques années, depuis le père Arrupe, qui a été un général des jésuites, aujourd'hui déjà un peu en chemin d'être béatifié ou bien canonisé. Alors, dans cette orientation, tout ce qui concerne, tout ce qui regarde la personne humaine, nous le portons très profondément. Alors, tout ce qui est les droits de l'homme, nous le regardons ici, dans cette ville de Cartagena en particulier, tout ce qui est où la personne humaine est maltraitée. Par exemple, il y a des communautés de la zone nord de Cartagena où il y a des communautés africaines. Des anciens esclavisés qui partaient, qui allaient dans les palenques, qui se réfugiaient dans des petits villages à eux. Alors il y a des petites communautés, quelques on appelle des petits villages, disons, des personnes d'ascendance africaine. Nous continuons à travailler avec eux sur le point de vue pastoral. Nous nous occupons d'eux depuis des années déjà. On a travaillé en différents secteurs, par l'éducation, la santé, et l'évangélisation, bien sûr. Et nous prenons en charge les plaintes qu'ils ont à propos, par exemple, de lorsqu'on veut les enlever les terres. Et tout, nous sommes des côtés de ces communautés, nous nous trouvons toujours en faveur d'eux. Donc cette partie-là, nous la considérons comme suite, comme un légué de l'action de Pierre Chavez.
Pardon madame, bonjour. Je vous ai vu prier dans la chambre de San Pedro Claver. Pourquoi est-ce que vous êtes venue ici prier?
Je suis psychiatre et toujours dans mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes qui sont esclaves peut-être de la modernité et des addictions comme l'alcool, les drogues, la pornographie, mais aussi et parce que la vie est très vite aujourd'hui. Personnes qui sont esclaves de leurs pensées et leurs émotions. Aussi, si vous sortez de ce monastère, vous allez voir une autre forme d'esclavage moderne, que c'est la prostitution. Et c'est très triste qu'à côté de ce lieu sacré et saint, et aujourd'hui, les esclavages continuent dans cette femme qui travaille comme prostituée.
Il y en a beaucoup à Cartagena.
Malheureusement, il y a beaucoup à Cartagena. C'est un problème à Cartagena. Alors maintenant, il y a plein d'esclavage des personnes qui viennent d'Afrique, mais il y a l'esclavage des femmes qui vendent leur corps.
Vous étiez déjà venu ici prier dans cette chambre de San Pedro Claver?
Oui.
Chaque fois que vous venez à Cartagena?
Oui. Chaque fois que je viens à Cartagena, je priais dans la chambre de San Pedro Claver. Il m'inspirait quand je retournais à la Colombie et il m'inspirait à aider les personnes qui viennent à mon cabinet.
Merci beaucoup.
Non, merci à vous.
Il y a aujourd'hui en Colombie beaucoup d'hommes et de femmes, religieuses, prêtres, laïcs, qui sont engagés au nom de leur foi dans la défense de la dignité de la personne humaine. Nous allons, au cours de ces reportages, réalisés en partenariat avec l'AED, l'aide à l'Église en détresse, rencontrer quelques-uns de ces acteurs qui sont d'une certaine manière des San Pedro Claver d'aujourd'hui, engagés pour libérer certains de leurs contemporains des formes d'esclavage actuelles. Ils s'engagent également, parfois au péril de leur vie, pour plus de justice et de paix dans un pays, la Colombie, fragilisé par plus de 50 ans de guerre civile. Alors nous allons quitter la côte Caraïbe pour nous rendre dans les montagnes à Medellín, cette ville tristement célèbre pour son trafic de drogue et la figure de Pablo Escobar. Nous allons y rencontrer le père Juan Carlos Velázquez, curé de la paroisse Marie, mère de l'Église, à Itagüí. Depuis 2010, avec son association ABBA, il aide des jeunes à sortir de la drogue et de l'influence des gangs dans les quartiers pauvres, accrochés sur les pentes de la montagne juste au-dessus de sa paroisse. À peine arrivé à Medellín, le père Juan Carlos nous emmène dans le quartier de la Triperia, tenu par le gang de la Oficina. Ruelle étroite, petites maisons de briques et de broc, d'un étage ou deux, collées les unes contre les autres. Tout y est, promiscuité, prostitution, trafic de drogue. Un quartier où je ne me serais pas aventuré sans lui.
C'est un peu fort la musique, hein? C'est assez fort.
En ocasiones no son uno, sino todos con diferente música.
Sí.
Sí.
Père Juan Carlos, pourquoi est-ce que vous nous avez amené dans ce quartier?
Pour découvrir l'environnement dans lequel les jeunes avec qui je travaille habitent et d'où est-ce qu'on les sauve, en quelque sorte.
Comment est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions de vie?
C'est très difficile, ce sont des conditions inhumaines et insalubres.
C'est très difficile. Ce sont des conditions inhumaines, insalubres. Ce sont presque des conditions malsaines à tout point de vue.
Desde el hacinamiento.
Entre l'insalubrité, l'assassinat et même l'architecture.
Et qu'est-ce qui attire les jeunes dans les gangs ?
Una posibilidad de poder vivir.
L'une des possibilités est celle de pouvoir vivre, survivre et avoir accès à un minimum de conditions comme la nourriture, le logement, les vêtements. C'est une question de survie.
My name is Elena Butti. I am an anthropologist and a postdoctoral researcher at the University of Oxford.
Je m'appelle Elena Butti, je suis docteur et chercheur en anthropologie à l'Université d'Oxford. Je suis ici à Medellin pour faire des recherches. Cela fait quelques années que je travaille sur l'engagement des groupes criminels à Medellin et dans les environs.
Pourquoi est-ce que les jeunes sont attirés par les gangs ici à Medellin et dans la région ?
Je pense qu'il y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi les jeunes rejoignent les gangs ou plutôt les groupes criminels. La première est d'abord économique. Le taux de chômage ici est très élevé et il y a un lien direct avec la violence dans la région. La vente de la drogue est l'une des principales activités de ces groupes. C'est également leur principale source de revenus. C'est une activité que les jeunes enfants peuvent voir très tôt, et notamment les jeunes qui ont arrêté les études, qui n'ont même pas fini le lycée et pour qui il est très difficile de trouver un emploi. Il y a également une pression pour les jeunes garçons, notamment, de gagner de l'argent pour le foyer, c'est ce que leur mère leur réclame. C'est donc un moyen pour eux de se rendre utile pour la famille. Je pense que la deuxième raison est ce que l'on peut appeler la stigmatisation des jeunes, en particulier liée à la consommation de drogue. La consommation de marijuana est très répandue chez les jeunes en Colombie. Ils commencent souvent à en consommer très jeunes, mais la stigmatisation contre cette consommation est telle que les jeunes qui commencent à en consommer sont considérés comme inutiles par leur famille et par le reste de la communauté. Les gens disent qu'ils gâchent leur vie, qu'ils n'ont rien fait de bien dans leur existence. Du coup, ces jeunes deviennent convaincus que cela est vrai et ils se mettent à descendre sur une mauvaise pente.
Est-ce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans un gang, il est facile ou très difficile de sortir de ce gang pour des jeunes ?
So in the context of Colombia, gangs are very different for example the Central American gangs that have.
Dans le cas de la Colombie, les gangs sont très différents de ceux d'Amérique centrale, par exemple. Ces derniers ont un sens plus développé de l'identité, de l'appartenance à un groupe. En Colombie, le fait d'appartenir à un gang ou à un groupe criminel est davantage une sorte d'emploi, c'est une activité. Il est donc un peu plus facile d'en sortir. D'ailleurs, certains jeunes sur lesquels j'ai fait des recherches et qui vendaient de la drogue à cette époque sont maintenant sortis des gangs. La plupart ont pu le faire grâce à l'aide d'amis, de leurs petites amies ou parce qu'ils ont trouvé un emploi alternatif. L'emploi est une dimension très importante. Cependant, bien que ce soit assez répandu de quitter un gang, de nombreuses vies sont perdues avant de pouvoir en sortir. Il y a plus de 2 morts par jour à Medellín en ce moment. Et la plupart sont des jeunes marginalisés, venant de quartiers marginalisés. Alors oui, les jeunes peuvent donc en sortir, mais ce phénomène ne s'arrête pas, car à chaque personne qui en sort, une nouvelle y entre.
Le rez-de-chaussée de la maison du père Juan Carlos, juste à côté de l'église, a été transformé en salle polyvalente où il reçoit tous les jeunes qui veulent sortir de la drogue, des gangs ou de gros problèmes familiaux. Tous les midis, les jeunes peuvent venir déjeuner. Chacun est accueilli par un sourire, une grosse étreinte fraternelle. Et avant de manger, on prie et on récite la philosophie de vie de l'association ABBA.
Nous allons nous mettre de pied pour faire la oration.
Bendicenos, Señor, bendice nuestro pan, a los que aquí lo amamos a tomar. Bendice el que lo sembró, el que lo cosechó, el que con tanto amor lo preparó, el que con tanto amor nos invitó. Amén.
Amén. Amén.
todos los días, esta es nuestra filosofía de vida.
¿Por qué estoy aquí?
Estoy aquí porque he descubierto que mi tema más profundo no es que sea inadecuado. Mi tema más profundo es que sea infinitamente poderoso. Me pregunto quién soy para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso. De hecho, ¿quién soy para no serlo? Nací para manifestar la gloria de Dios que hay dentro de mí. Y mientras debo brillar mi propia luz, permito que otros hagan lo mismo.
Camille, vous pouvez me donner la traduction de cette philosophie de vie de
oui,
Abba.
Bien sûr. Pourquoi suis-je ici? Je suis ici parce que j'ai découvert que ma peur la plus profonde, c'est que je suis infiniment puissant. Je me demande alors, qui suis-je ici pour être aussi brillant, beau, talentueux et fabuleux? Par ailleurs, qui suis-je pour ne pas l'être? Je suis né pour exprimer la gloire de Dieu qui est présente en moi. Et dans la mesure où je permets que cette lumière intérieure brille en moi, je permets donc qu'elle puisse aussi briller chez les autres.
Je m'appelle Vanessa Castañeda.
Estudio, estoy en el grado 11.
J'ai 16 ans et je suis en niveau 11 à l'école.
Comencé a los 11 años.
J'ai commencé à prendre de la drogue à 11 ans parce que j'avais beaucoup de problèmes à la maison. Mon frère prenait de la drogue et c'est avec lui que j'ai commencé.
Et tu as pris de la drogue pendant combien de temps?
4 años. Todos los días.
Pendant 4 ans. Tous les jours, tous les jours.
Marihuana,
perico, pepas, pastillas.
Llegué a consumir alucinógenos.
J'ai même consommé des hallucinogènes, de l'ecstasy.
Comment est-ce que tu étais à cette époque-là?
Era muy desorganizada, era muy rebelde.
J'étais très perturbée, très rebelle, très grossière. Je me fichais de ce que je faisais. J'étais horrible. J'étais vraiment perdue dans la drogue.
Et qu'est-ce que tu as trouvé ici, dans le groupe Abba, avec le père Juan Carlos?
Ah, beaucoup de choses. Je me suis trouvée moi-même. J'ai compris que je manquais beaucoup de confiance en moi, d'estime de moi. Le père m'a énormément aidée. En me trouvant un foyer où rester, en faisant des thérapies, en allant à San Nación et en parlant avec différentes personnes. Ils m'ont beaucoup aidée.
Estuve en un proceso de desintoxicación durante 10 meses.
J'ai aussi suivi une cure de désintoxication pendant 10 mois. Ce fut très dur. On nous donnait beaucoup de médicaments pour que l'on puisse se contrôler. Et on nous faisait faire aussi beaucoup d'activités toute la journée pour nous occuper l'esprit.
Et ça fait combien de temps maintenant que tu ne touches plus la drogue?
Hace más de un año.
Ça fait plus d'un an.
Tu es contente?
Très contente, oui. J'ai beaucoup changé. Par exemple, j'ai de meilleures relations avec ma famille. Je m'en sors très bien dans mes études. J'ai de nombreux objectifs dans la vie, beaucoup de projets pour mon futur. Je veux vraiment changer et continuer à changer beaucoup de choses.
Je suis le père Juan Carlos Velázquez, j'ai 44 ans et cela fait 18 ans que je suis prêtre. Je travaille pour l'archidiocèse de Medellín. Depuis que j'ai été nommé il y a 18 ans de cela, j'ai travaillé sur des sujets sociaux, de pacification de la ville. J'ai aussi travaillé avec des jeunes sur un projet de transformation au niveau humain.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les jeunes qui viennent ici? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant?
Nous sommes jeunes entre 12 et 18
ans. Ce sont des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans. Ce sont des jeunes qui ont des difficultés familiales ainsi que sociales. Ils viennent de foyers détruits, avec des problèmes de dépendance aux drogues pour certains. Et pour d'autres, ce sont des problèmes de violence. Certains faisaient même partie de groupes de délinquants, de groupes armés.
Ce
sont des groupes impliqués dans le trafic de drogue, le trafic de personnes, la prostitution, le trafic d'armes, le kidnapping, la séquestration, la prise d'otages et même dans l'extorsion.
Quels sont les programmes que vous proposez à ces jeunes ici?
Le but de notre programme est de dispenser une formation, une transformation humaine intégrale.
Acogemos a la persona no parcialmente, sino totalement.
Nous accueillons les personnes à 100%. Nous les prenons en compte de manière intégrale, que ce soit par rapport à leur physique, en rapport avec leur santé, à leurs études, à leur spiritualité, à leur nutrition, au niveau psychologique aussi, et à leur famille. En fait, les jeunes viennent ici dans cette demeure où ils ont de l'alimentation, un accompagnement psychologique, un développement spirituel, des cours d'art, de danse, de musique. Nous les aidons quand ils ont un besoin médical ou vestimentaire, ainsi que pour les loisirs.
Vous aidez combien de jeunes ici ?
Aujourd'hui, nous avons 60 jeunes dans notre programme et environ 80 qui nous demandent de pouvoir en faire partie. Gangster.
Hoy mi pueblo anhela y aclama la paz, y en silencio ruega y sufre no más.
No, no, no más, no, no, no más, no, no, yo más, no.
Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Gallego Hernández.
Bonjour, je m'appelle Hernández, j'ai 17 ans.
Antes de yo entrar al proceso...
Avant d'entrer dans le parcours proposé ici il y a 3 ans, j'étais impliqué dans le monde de la drogue. J'étais un enfant perdu. Ma mère m'a élevé seule. Elle a élevé 6 enfants. Deux de mes frères se sont aussi perdus dans le monde de la drogue. Mon unique objectif aujourd'hui dans la vie, c'est de m'en sortir, d'aller de l'avant, moi et ma famille.
Me gusta mucho... Por medio de mi testimonio de vida,
ce qui me plaît, et ce que j'ai aussi entendu comme témoignage chez des jeunes qui viennent ici, c'est qu'on peut revenir dans le droit chemin avec l'aide du Père. Je veux aussi montrer aux autres que la vie est bien meilleure sans la drogue et qu'avec les études, on peut tout faire.
Le père Juan Carlos ne fait pas que s'occuper des jeunes et de sa paroisse. Il a aussi une mission non officielle et beaucoup plus dangereuse. Il sert de négociateur entre les gangs de Medellín qui se partagent la ville. Il a participé à 2 reprises, en 2010 et en 2013, à un pacte de non-agression entre les gangs. Des pactes qui portent encore leurs fruits aujourd'hui dans la pacification de la ville.
Et... Le
pacte de non-agression a pour but la défense de la vie. La vie est considérée comme un don sacré de Dieu. La ville a toujours été divisée en 2 parties, en 2 types de groupes armés. En 2010, les 2 factions étaient la faction de Valencian et celle de Sebastian.
Et luego en el 2013 la fraction de
plus tard en 2013, c'était la faction des Huravanos et celle appelée Oficina.
Esos grupos se pelean la ciudad.
Ces 2 groupes se disputent la ville afin d'obtenir le contrôle du trafic de drogue, d'armes, des extorsions et le contrôle sur la ville entière.
Qu'est-ce que vous avez fait du coup ?
En 2010,
on m'a invité à faire partie d'un groupe afin d'essayer de dialoguer avec les factions, afin qu'ils arrêtent de s'entretuer. Nous n'avions pas de soutien du gouvernement et pourtant le dialogue a marché, remettant à 0 le compteur du nombre de morts des homicides à Medellín.
Quel a été votre rôle, à vous en particulier ?
Les 2 pactes que nous avons signés ont presque toujours montré un nombre de 1800 crimes par an. Et par la suite, nous avons vu le nombre réduit de plus de la moitié, c'est-à-dire 900 crimes à peine, voire 800. Et ce, dans le premier pacte. Dans le second, le nombre était de 1600 crimes. Et maintenant, on a atteint les 600 environ, et ce grâce au pacte annuel.
Est-ce que ce n'est pas dangereux pour votre vie ?
Si, mais depuis que je suis prêtre, je prends en compte le fait que tous les jours, je fais l'Eucharistie. Je dis qu'il s'agit de mon corps, de mon sang. Je suis en communion avec Jésus. Je pense que si Jésus était parmi nous, il ferait la même chose que moi. C'est une réponse humaine, mais aussi chrétienne.
Au problème interne de la Colombie vient se rajouter une autre problématique depuis 2015. L'arrivée massive de plus d'1,5 million de réfugiés fuyant le Venezuela. Dans notre prochaine émission, nous verrons comment l'Église catholique vient en aide à ces hommes et à ces femmes dans une situation de grande fragilité. Merci au Père Gutiérrez et au Père Juan Carlos pour leur accueil. Et merci à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, qui a rendu possible ces reportages. Et merci à Philippe Faure pour la réalisation technique.